Et là, ce que dit le Next 40, c'est on met l'éclairage sur des boîtes qui délivrent. Et ça fonctionne. Ils ont pas plein de gens, évidemment, des idées. Ils font partie de ceux qui ont des idées. Mais il n'y a pas que la notion d'idée. Ces startups dont vous entendez parler un peu partout, elles sont avant tout là pour transformer les choses. Et regardez, on a 40 exemples concrets.
Bonjour, c'est François Lay, bienvenue sur Serial Entrepreneur, le média où la parole est aux entrepreneurs. Le 20 septembre dernier, en partenariat avec Le Village, Baïséa, Ille-et-Vilaine et Ouest France, le premier format Serial Entrepreneur le déjeuner a été lancé. Le concept est simple, un podcast d'une trentaine de minutes, suivi d'un déjeuner intimiste avec des fondateurs de start-up au Village Baïséa. Dans le cadre de ce nouveau format, j'ai eu l'opportunité de rencontrer et d'échanger avec Mathieu Becher, CEO et fondateur de Klaxoon, pépite créée en 2015 à Rennes. Si vous ne connaissez pas encore Klaxoon, c'est un outil qui permet de collaborer plus efficacement, initié à l'été 2013 par 5 passionnés, puis créé en 2015. En 4 ans, l'outil a été adopté par des milliers d'équipes, aussi bien dans les grands groupes que dans les moyennes et petites entreprises. Dans cet épisode, on évoque les grandes étapes de Klaxoon, leurs 2 levées de fonds, 5 millions d'euros en 2016, 43 millions d'euros en 2018, leur sélection récente parmi les 40 startups françaises à fort potentiel, donc le Next 40, et leur futur. Abonnez-vous à Serial Entrepreneur sur votre plateforme favorite de podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez surtout pas à laisser une note, c'est important. Suivez le média sur serial-entrepreneur.fr et sur les réseaux sociaux. Excellente écoute et rendez-vous en novembre pour le prochain épisode.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, te présenter un peu rapidement ?
Ok, alors moi je suis fondateur de Klaxoon. Je suis passé par le monde des télécoms, de l'informatique au départ, donc je suis ingénieur de formation. Et j'ai commencé mon parcours en Allemagne chez Daimler sur le développement de véhicules autonomes. C'était dans les années 2000. Et puis ensuite, j'ai basculé, je suis resté dans le monde automobile, j'ai rejoint le groupe Valeo en France sur un métier très différent de manager de production. Et j'ai rejoint progressivement la Bretagne avec le groupe Alten, un groupe de conseil, sur lequel j'ai monté un groupe de consultants en méthode industrielle. Et suite à ça, finalement, ça fait 5 années dans les grands groupes, j'ai souhaité hybrider ces différents parcours, différentes expériences, en créant mon entreprise en 2009 qui s'appelait Regard à Rennes.
Oui.
Et donc, dès le départ,
on va parler, justement.
Voilà, je me suis intéressé à cette notion de comment est-ce qu'on peut lier les méthodes agiles industrielles et les nouvelles interfaces en se posant cette question de l'efficacité des façons de travailler au quotidien au sein des équipes. Voilà,
okay.
Donc un parcours très orienté innovation et management, travail en équipe.
Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ?
Alors, en fait, j'ai toujours été intéressé par la notion de création, d'innovation depuis tout petit. Je regarde ou je vais essayer de me rappeler de ce que je voulais faire plus grand, il y a souvent le côté ingénieur qui revient, le côté inventeur, le côté Lego, le côté architecte. Enfin, il y a toujours une notion de création ou d'invention. Et puis, arrivé dans le monde du travail, et même un peu avant, étant étudiant, déjà j'avais créé différents projets à droite et à gauche. Toujours des projets collectifs. Je ne faisais jamais un truc tout seul. C'était pas forcément orienté business, c'était plutôt orienté comment est-ce qu'on pouvait, à plusieurs, faire quelque chose d'enthousiasmant. Donc, quand j'étais étudiant, c'était des projets de voyage qui mixaient étudiants et professionnels pour essayer de dépasser le format classique de l'entretien un peu convenu qu'on a souvent en début de carrière. Voilà, donc j'ai testé différentes choses. Ensuite, en parallèle de cette carrière dans les grands comptes, j'étais en contact avec pas mal d'entrepreneurs. Le terme n'existait pas vraiment encore. Donc je parlais à des potes ou à des amis qui avaient monté leur entreprise. Et ça s'est fait naturellement. Finalement, le déclic, il est plus quand vraiment je décide de partir et de créer mon entreprise, c'est plus le constat que j'ai déjà appris pas mal de choses. Et même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je constate qu'il y a des choses qu'on peut changer tout de suite et qui mériteraient d'être faites. Et donc je me dis, bon, bah, on va essayer d'y aller avec un prisme et un parcours qui est assez original, qui m'a permis de rencontrer beaucoup de profils différents, des gens à la fois dans la technicité, dans la partie logicielle, en Europe. Ça, c'est un point important, cette notion de sortir aussi du territoire à un moment donné pour rencontrer des profils qui viennent un peu partout, des profils aussi dans le domaine du conseil, des profils dans les méthodes. Donc tout ça, ça me donne un éclairage assez sympa de quelque chose qui n'existe pas trop en 2009. C'est un travail vraiment d'équipe entre des métiers très différents. On est encore sur un monde de travail qui est très siloté. C'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était encore plus le cas avant. Avec le logiciel, notamment, si on va dans le détail, c'était le logiciel sur lequel la partie design graphique n'était pas du tout considérée. Le graphiste était souvent le dernier maillon de la chaîne, voire à peine appelé. Et puis à la fin, il y avait un bouton un peu moche, il fallait le relooker, puis on l'appelait. L'idée de départ de regard et qui est présente dans Klaxoon, c'est de dire qu'il faut tous les métiers autour de la table dès le départ. Il n'y a pas un métier plus important qu'un autre. Le design de l'interface doit être clé. La technicité doit être discutée dans le design. On peut pas. Chaque métier dépend de l'autre et il faut discuter.
Ok.
Voilà.
Très bien. Donc en 2009, tu crées Regard, du coup. Et Regard, concrètement, quelle était la mission, le métier de ce groupe ?
Alors, déjà, je quitte Alten, donc une situation plutôt confortable, une équipe de consultants, 70 personnes, des collègues formidables. Bref, tout était, j'aurais pu continuer cette voie, elle était plutôt enthousiasmante. Et je pars vraiment cette notion de cette envie pressante d'inventer un produit, un outil. Et par contre, je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, je vais créer l'entreprise avec 4000 euros. Et puis, avec mon diplôme d'ingénieur, avec d'autres amis diplômés de différents parcours, on va essayer de monter un projet de R&D et le proposer au soutien de l'époque, qui était Oseo, qui finançait l'innovation, la banque de l'innovation. Bon, on va très vite se rendre compte qu'en vérité, avec 4000 euros, on n'aura pas un grand soutien. Mais je ne suis pas financier de formation, donc je vais vraiment apprendre sur le tas, on peut dire. Ouais. Et puis, entre la com, qui à l'époque était quand même très orientée, vous avez une idée, on va vous aider. Et puis la réalité, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme gap et qu'en vérité, l'idée, si elle n'était pas déjà bien financée, il y avait peu de chances qu'on y arrive. Donc, on peut dire qu'on pivote dès les premiers mois, dès les premières semaines de l'aventure. Et puis, notre outil rêvé, notre projet de R&D qu'on estimait à peu près 300 000 euros, la réponse est assez simple et elle nous a fait beaucoup grandir. C'est si vous n'avez pas 300 000 euros en fonds propres, rêvez pas, vous ne ferez pas une entreprise tech. Donc, à 4 000 euros, on a été chercher des clients. Donc on a gardé la même approche. Comment est-ce qu'on peut concevoir des outils plus efficaces pour partager de l'information au sein d'une équipe ? Comment on peut inventer de nouvelles manières de collaborer ? Mais on l'a fait en mode service. Donc on a été frappé à la porte des grands comptes, notamment parisiens, et on a été voir les métiers qui se posaient ces questions-là, qui auraient été déjà un peu en avance de phase et qui étaient prêts tout de suite à payer des projets d'innovation, des projets de conception logicielle. Et on va en trouver, ça va être beaucoup d'énergie. Dès le départ, il va falloir être bon commercialement, il va falloir être bon aussi en delivery, parce que c'est des projets d'innovation, mais on est dans l'innovation court terme. On ne veut pas non plus partir sur un projet où peut-être un jour il sortira un outil. On va toujours essayer de trouver un territoire et des clients qui vont être prêts et pressés même à avoir une solution sous quelques mois. Et ça va nous aider à grandir vite, puisque ça nous permet aussi de boucler les projets assez rapidement, et puis sans arrêt, test and learn, progresser, etc. à chaque pas. Donc l'axe de service, on va sacrément grandir. On va passer de 0 à 50 salariés à peu près en 4 ans, rentable, dès le premier exercice, il n'y a pas le choix. Et puis, on va réinvestir tous ces bénéfices dans le capital. On ne va jamais verser aucun dividende extérieur. Et donc, 3 ans et demi plus tard, on retourne voir BPI, Oseo est devenu BPI, et on a ces fameux 300 000 euros en fonds propres. Et c'est le début d'aventure Klaxoon, puisque là, on va nous soutenir. Et puis on a eu le temps, dans ces 4-5 ans là, de chemin en auto, on peut dire de découverte du marché, de tester beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses, et aussi d'avoir des interlocuteurs qui, au final, déjà, alors qu'entreprise est assez jeune, nous connaissent, nous font confiance, ont pu mesurer notre capacité à délivrer. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a derrière Klaxoon et qui permet, quand l'idée, on va avoir les moyens de la délivrer, d'avoir déjà pas mal de soutien.
En fait, vous vous êtes levé des fonds un peu pour vous-même, quoi.
Oui, sur un sujet.
C'était une époque justement où les levées de fonds n'étaient pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui.
En tout cas, à Rennes, c'était un peu plus rare.
Ouais.
Et sur des budgets souvent plus resserrés qu'à Paris. Bon, déjà que la France était encore plus en décalage avec les on peut dire le marché américain. Ouais. Ici à Rennes, en 2010, levée des fonds. Déjà, le mot start-up, c'était, je crois qu'on est des premiers à l'avoir revendiqué. C'était ça me paraissait pas être la voie la plus facile. Il y avait d'autres évidemment entreprises qui ont levé des fonds à cette époque-là, qui ont fait ça très très bien, mais j'avais pas la connaissance et surtout le secteur sur lequel on était parti n'était pas un secteur très à la mode. Convaincre des investisseurs qu'il y avait quelque chose à faire autour de la collaboration. À l'époque, on était peu de temps après en pleine accélération Facebook, les réseaux sociaux, Yammer, Jive, etc. Donc la collaboration c'était considéré comme étant déjà très adressé. Et pour beaucoup, c'était fini, quoi. Donc, aucune chance qu'un acteur rennais puisse avoir début de commencement d'une révolution dans la collaboration. Donc, notre sujet n'était pas sexy ou considéré comme saturé. Donc, on a pris un chemin différent. Et c'est un chemin qui nous a permis justement d'être très, très mature quand l'idée va sortir vraiment sur le marché. Et heureusement qu'on a fait ça. Je suis convaincu que si on avait levé des fonds à cette époque-là, alors soit trop peu, ou imaginons qu'on aurait été chercher ça ailleurs, de toute façon, on aurait été, l'idée n'aurait pas eu le temps de maturer autant qu'on a pu la faire grandir avec des clients, avec un réseau de partenaires qui nous ont aussi permis d'éviter pas mal de bêtises. Et puis, on a testé aussi un sujet tout seul. Notre premier produit, c'est Les Mystères de Rennes, un jeu qu'on a inventé avec les champs libres. Un jeu qui nous a permis d'apprendre plein de choses et de vraiment sortir de cette case de service où on est au service évidemment d'un client, d'une vision, ce qui n'est pas évident hein, de mettre en phase notre vision d'un produit et puis les besoins concrets d'une personne en face de soi. Et puis on a commencé par petites échelles comme ça, par des petites touches. J'ai cité un mystère de Rennes, mais ça a aussi commencé en interne. Nos produits, on les a conçus aussi pour nous en interne, des tests internes de productivité, de voir comment l'entreprise qui passait de 0 à 50 personnes pouvait gagner en efficience. Donc tout ça, finalement, c'est beaucoup de tests, beaucoup d'apprentissage.
Vous avez créé Klaxoon, du coup, en quelle année ?
Alors, le projet R&D commence en 2013 et l'entreprise est créée fin 2014.
Okay.
Le produit lancé en mars 2015.
Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Klaxoon, du coup ?
Alors, Klaxoon, ça concentre ce que je viens de vous dire. C'est un outil, une plateforme ou des outils qui vous permettent de collaborer plus efficacement. On s'intéresse particulièrement au moment du travail de groupe et de la réunion, qui est un de nos points d'entrée souvent chez les clients. Un moment de la réunion qui caractérise pas mal de choses de ce qui se passe dans une équipe. On y voit ce qui se passe ensuite au quotidien. On y voit des équipes qui discutent pas forcément, ou quelques-uns qui prennent la parole, d'autres qui écoutent pas vraiment. On y voit une prise de décision qui n'est pas évidente. On y voit un problème de gestion du temps. Bref, il y a pas mal d'éléments qui se concentrent dans cet instant. Et on commence par accompagner souvent les utilisateurs sur cet axe-là, mais en vérité, Klaxoon, c'est un outil de collaboration qui transforme votre manière de collaborer, et on s'inscrit vraiment dans une recherche et la mise en place d'une nouvelle façon de travailler qui correspond à notre époque, plus distribuée. On est sur différents sites à la fois, sur différents projets à la fois, avec différentes équipes. On est sur 3, 4, 5 dimensions. Et évidemment, les outils historiques qui sont encore très en place aujourd'hui, le mail, les outils d'édition de texte, etc., ne correspondent plus à cette façon de travailler. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à les utiliser, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres choses à mettre en place et on s'inscrit vraiment dedans. Et c'est un axe assez de niche, on peut le dire, parce qu'on est vraiment sur l'axe de la productivité, de la façon dont vous allez manier votre information, la façon dont vous allez la partager avec l'équipe, et on vient en complément des outils classiques qui sont en train de transformer par ailleurs la discussion, je pense aux messageries instantanées. On n'est pas une messagerie instantanée, on vient en complément de ce type d'outils pour aller mettre en forme l'information différemment, pour aller engager davantage les personnes dans le partage avec leurs collègues, leurs équipes.
Ok. Et quelles ont été les grandes étapes de Klaxoon, les premiers clients, la première levée, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors, projet, on l'a initié à peu près à l'été 2013, et on s'est enfermé à 5 avec une équipe, pour le coup, tech. Il n'y a pas de marketing au départ de Klaxoon, on est 5 passionnés, on va aller en interne, créer presque on va recruter une nouvelle équipe. On va vraiment leur parler d'un démarrage, d'une remise à zéro. Et c'est des gens qui font le choix de rejoindre cette aventure. C'est important, c'est pas un projet qui a été pris comme un projet service, quoi. On est vraiment parti de zéro, avec des gens qui ont choisi de faire le pari de rentrer dans cette logique d'un outil. Dès le premier jour, penser pour des millions d'utilisateurs. C'est vraiment la chose qu'on va mettre sur la table, avec la contrainte de fiabilité, de la robustesse, de la sécurité. Et puis, ça, c'est les premiers paramètres. On peut dire le côté professionnel est présent dès le premier jour. Et puis, l'aspect simplicité, d'innover, de disrupter, de proposer une vraie efficience, mais simple. Surtout, pas tomber dans le piège des outils de productivité qui sont souvent réservés à des spécialistes, et de voir comment tout ce qu'on a pu apprendre pendant 5 ans, on va le rendre accessible. Qu'est-ce qui est standard dans tout ce qu'on a pu détecter chez nos clients ? Et donc, c'est un parcours de filtre. On va filtrer énormément. On va filtrer, puis on va monter l'exigence au fur et à mesure. Donc ça, ça va durer un an et demi pratiquement, jusqu'à ce qu'on puisse avoir des utilisateurs en test. Je pense à L'Oréal, à SNCF, EDF, Thales, qui vont chacun, Novartis également, qui vont chacun nous envoyer sur différentes dimensions et tester le produit. L'Oréal sur l'axe international. Très vite, ils vont emmener la solution un peu partout. Et on va faire justement le test de notre robustesse qui est essentielle pour nous dans la présence au sein d'une salle de réunion, puisque en réunion, la technologie souffre énormément. C'est l'épreuve du feu, la réunion. Si vous avez le moindre défaut, on a tous vécu une télécommande qui ne marche pas, un câble, bon, on finit par laisser tomber la techno et on repart sur des bouts de papier dont on connaît les défauts et les limites. Donc premier point qu'on voulait vraiment valider sur ce mois, sur cette année de recherche, ça a été comment faire en sorte d'avoir une technologie fiable sur laquelle on puisse se dire en réunion maintenant, dans l'espace de travail, je peux m'appuyer sur la technologie. C'était quand même une des grandes limites, y compris jusqu'en 2015, 2016, de la technologie dans l'espace de travail, c'est notamment l'accès à Internet. Et encore aujourd'hui, vous le voyez dans l'accès en général aux différentes solutions. Donc ça va durer plusieurs mois. On va avoir une version bêta prête et déjà bien déployée à l'automne 2014. Je pense aussi à Thales qui va tester la solution dans toutes les dimensions. Et c'est ça qui va nous amener à créer la Box Klaxoon, qui va permettre d'accéder à cette solution Internet. Rien à installer, toujours cette notion de simplicité. On passe par une page klaxoon.com, on tape un code, on rentre directement dans la réunion. Mais tout ça, on va aussi le rendre accessible sans Internet. Ça montre assez bien le niveau technique qu'on avait atteint, qui est dès le départ, qui était assez élevé, puisqu'on maîtrise toutes les couches logicielles, du hardware jusqu'aux couches cloud. Et on va proposer dans un device petit qui tient sur une table quelque chose de très sécurisé, qui embarque toute la solution et qui permet de faire des réunions interactives, participatives, avec
sans réseau,
50 personnes
sans
connectées,
réseau internet.
Voilà, ouais. Sans réseau Internet. Donc là, il y a un vrai exploit technique qui est réalisé, en plus dans une grosse contrainte de sécurité, puisque Thales... comme d'autres acteurs, sont très exigeants évidemment sur l'aspect device connecté dans l'espace de travail. Et donc on va concevoir un device très robuste qui va passer pas mal de tests et puis qui fait, quand on lance en mars 2015, le produit est déjà prêt. Voilà, donc ça c'est le lancement. Mars 2015, on fait ça dans la lignée de ce qu'on s'est fixé, avec l'ambition de le faire bien et de se dire si on va réfléchir et on va agir en pensant aux millions d'utilisateurs qu'on aura un jour, toujours. Alors évidemment, ça fait sourire au départ. Et on va s'interdire de sourire. On va garder le sens de l'humour, évidemment, mais on va s'interdire de sourire dans le sens où on va s'interdire de prendre notre idée à la légère. Et ça, c'est très difficile. Hein. Quand vous êtes autour d'une table, deux, trois, vous êtes toujours deux, trois. N'importe quelle idée que vous connaissez aujourd'hui, il y a toujours eu deux, trois personnes à un moment donné. Et on va toujours se dire, OK, on va le faire sérieusement. Et puis, on va se challenger dès lors qu'il y en a un qui commence à prendre à légère le truc ou dire, ouais, ça va, des millions d'utilisateurs, des millions déjà, on va faire en sorte que ça tourne. Ça, on va le combattre entre nous. On va se challenger. On va dire, attends, non. Vraiment, s'il y en a des millions, on le fait comment? Tu fais comment? Ça tient ton truc, etc., etc. Donc ça fait qu'arriver au lancement du produit quand il est prêt en mars 2015, on se challenge pareil, on se dit, bon, comment on le lance? Parce qu'on ne va pas le lancer juste comme ça, en disant sur une page web, il se passe quelque chose. Donc on va créer un événement, et on va sortir de notre territoire rennais qu'on connaît bien, on va aller à Paris, à la Défense, au CNIT, lancer ce produit, on invite ce qu'on n'avait jamais fait, on fait un événement. On n'avait jamais organisé aucun événement. C'est un petit événement à notre échelle, une après-midi où on présente le produit. Mais ça va nous apprendre beaucoup de choses. Parce qu'il faut se mettre en situation, il faut expliquer le produit, il faut le pitcher, il faut tout ça. Et donc cette équipe qui est très tech va progressivement apprendre à parler au grand public et au monde professionnel, mais sous un angle qui est toujours de pas rajouter des couches de com. C'est de prendre plutôt des gens du métier, par exemple, des gens qui sont capables de parler de la formation, d'usage de klaxon en formation, d'usage de klaxon en réunion. Et leur demander à eux comment ils expliqueraient ça aux autres. C'est-à-dire qu'on a toujours fait la partie communication de Klaxoon avec des acteurs métiers.
Okay.
Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on reste sur cette notion de si on croise vraiment un spécialiste ensuite de la formation, on veut lui mettre en face des spécialistes de la formation et pas juste rester sur des couches marketing. Voilà, donc ça, c'est mars 2015. Et puis ensuite, le produit va vite rencontrer son public. Dès l'été 2015, des clients nous disent, c'est Schneider, il me dit, écoutez, vous devriez aller voir au CIS. À Las Vegas. C'est Las Vegas, ça nous paraît très loin. On me dit, si, allez voir, parce que votre idée, elle vaut le coup. Allez candidater. Donc on candidate et on remporte un award.
Innovation Awards.
C'est ça. En octobre, CES Innovation Awards, qui est une très très belle reconnaissance d'une innovation qui est de nature, c'est leur critère, hein, de nature à transformer la façon dont on vit. C'est leur façon d'étudier chaque innovation. Quelles sont les innovations qui sont de nature à transformer les différents secteurs, que ce soit la partie consumer, média, grand public. Notamment le magnétoscope a été promu là-bas, les consoles de jeux, les téléphones, etc. Ils ont à chaque fois détecté pas mal de choses. Et on va être un des premiers acteurs à dire, il y a quelque chose qui se passe sur le monde du travail. Et nous, on souhaite défendre des innovations qui vont considérer aussi, qui vont impacter aussi l'individu en tant que dans le grand public, puisqu'on va de plus en plus choisir comment est-ce qu'on travaille. Et c'est toujours un grand sujet de débat. Le CIS, dès le départ, soutient et nous salue avec cette award. Mais on mesure mal, au-delà de la distance, de la fierté d'avoir un prix comme ça à l'autre bout du monde. Il y avait une vraie difficulté qu'on va vivre là-bas et qui va nous permettre de nous rendre assez notoires. On est les premiers à dire, il y a quelque chose qui se passe sur le monde du travail. Ne pensez pas que ce sera toujours le sujet ou une décision stratégique en entreprise, etc. Il y a aussi un individu qui est en train de plus en plus de choisir comment il travaille. Et nous, on veut répondre à cette transformation, à ce changement de paradigme avec des devices qui permettent d'aller adapter de plus en plus l'espace autour de soi, nous faire participer, y compris à distance, à des réunions plus efficaces, etc. etc.
Ok.
Voilà.
Très bien. Et puis, quelques mois après, il y a eu le lancement du Klaxoon Store à Paris, du coup. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce lancement de ce store ?
Alors oui, il y a du chemin entre les deux. On va lever
une première levée de fonds
de 5 ouais. millions d'euros en septembre 2016. Mmh. Donc c'est déjà un an et demi après le lancement de Klaxoon. Mmh. C'est-à-dire que le produit est déjà rentable, il a déjà trouvé son public, on a déjà plus d'un million d'euros d'activité, etc. Donc c'est vraiment une logique d'accélération commerciale, ouais. mais pas dans une logique d'existence. Ça, c'est important. C'est-à-dire que l'équipe est déjà bien en place, les métiers sont déjà là, on est dans une logique d'accélération, pas de recherche de business model. Et puis ensuite, effectivement, entre les deux, on va lancer une boutique à Paris, première boutique pour le travail en équipe, en plein cœur de Paris. On va toujours pareil, on essaye depuis le début de l'histoire de se mettre dans les zones où on n'est justement pas très à l'aise pour voir comment est-ce qu'on peut réagir à ça. Parce que de toute façon, on y est soumis un jour ou l'autre, à devoir pitcher ou à ce que le produit se défende tout seul au bout de la planète sans qu'on soit à côté. Donc on va essayer de voir à chaque fois comment est-ce qu'on peut anticiper ces phases-là. Et le store à Paris va nous permettre d'anticiper pas mal de choses. De savoir parler du produit sans qu'on soit vraiment à côté, parce que les gens, quand ils viennent en boutique, ils découvrent le produit tout seul. Et puis de voir comment est-ce qu'on peut accompagner aussi nos utilisateurs. Ce qui est clé chez Klaxoon, c'est notre volonté de transformer concrètement les manières de collaborer. Et on travaille beaucoup l'accompagnement au changement de nos utilisateurs. On est aussi le premier numéro au monde. Vous pouvez appeler en permanence. Il y a 30 personnes à Rennes qui font ça. Pour si vous avez une question sur comment faire une réunion demain, on va vous répondre, on va vous aider. On est les seuls à faire ça au monde. C'est une démarche vraiment très poussée sur la partie accompagnement, parce qu'on considère que ce n'est pas un changement qui va se faire avec 2-3 boutons. C'est un changement d'attitude, de posture. Évidemment, on a le bon outil pour ça, mais ce n'est pas qu'une histoire d'outil. Il faut faire rentrer les gens, il faut les accompagner. Et c'est ce qu'on fait au store à Paris, c'est ce qu'on fait au campus à Rennes. C'est un espace ici qui accueille, là, en ce moment, pendant qu'on parle, il y a une centaine de personnes qui sont sur le campus, en plus des 200 salariés. Mais chaque semaine, il y a des dizaines, des centaines de personnes qui viennent s'inspirer, regarder comment on peut travailler différemment, regarder comment on peut faire un pas en avant.
Très bien. Et l'année dernière, un événement important, la levée de 50 millions pour justement vers l'international, hein, clairement. L'objectif, justement, c'est quoi ? C'est de s'installer aux États-Unis, sur le marché asiatique. Quels sont les objectifs de cette levée ?
Alors, déjà à l'échelle française, européenne, on a déjà un produit qui aujourd'hui est diffusé auprès de la plupart des grands comptes du CAC 40, mais c'est que 50% de nos clients. 50%. De nos autres utilisateurs sont des TPE, des PME, des indépendants, des organisations, des associations,
le monde éducatif également. Il n'y a pas que des grands groupes.
Il n'y a pas que des grands groupes, il y a vraiment beaucoup de monde. Ça nous donne déjà une très très large base de croissance et c'est aussi là-dessus qu'on fait cette levée de fonds. Ce n'est pas que pour l'international, c'est vraiment pour aller grandir, accélérer, prendre une position d'acteur incontournable dans l'espace de travail, France, Europe et évidemment le reste du monde. Donc aujourd'hui, c'est des millions d'utilisateurs dans plus de 120 pays. Et la partie US, on va effectivement ouvrir des bureaux, donc aujourd'hui New York et Boston, pour aller équiper des utilisateurs qui n'ont pas forcément la même vision, le même usage. Ils sont sur des usages des fois très avancés pour certains, d'autres qu'on estime déjà adressés depuis longtemps sur la France. Je pense à la notion d'idéation. Ils adorent le côté brainstorm de Klaxoon sur lequel tout le monde peut s'exprimer des idées facilement. Mmh. Ils adorent ce côté créativité, facilité, le fait que tout le monde ait le même poids dans une discussion. C'est peut-être encore plus prégnant sur le marché américain qu'en France. C'est une notion de il y a un chef et on suit la parole du chef. C'est vrai en France, mais là-bas, c'est peut-être encore plus fort. Ils sont très, très contents de pouvoir équilibrer la parole. Parce que tout le monde souhaite l'équilibrer, mais très vite, les réflexes, comme dans toute réunion, reviennent et puis on est plus à l'aise finalement à retomber sur une, deux, trois personnes qui parlent très bien, qui vont prendre le lead ouais. et puis est-ce que les autres finissent par suivre.
Ok.
Voilà.
Très bien. Et cette semaine, on a appris que vous faisiez partie du Next 40, donc les 40 startups pépites françaises. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce Next 40, justement ?
Alors, Next 40, c'est quelque chose qui apporte, je trouve, quelque chose de très important dans une entreprise comme la nôtre, c'est de la confiance. C'est une marque de reconnaissance, déjà, qu'on a pratiquement jamais dans un parcours entrepreneurial ou d'entreprise. On est souvent sur des prix qui sont reçus... alors je ne parle pas de l'axe innovation, mais sur l'axe entreprise, c'est-à-dire sa performance, son efficience, etc. Il y a assez peu de prix qui saluent ça. Il y a évidemment les levées de fonds qui permettent de se dire tiens, il se passe un truc. Mais les levées de fonds sont aussi, tout le monde le sait, un peu biaisées dans le sens où ça peut très bien être une levée de fonds sur un modèle qui n'est pas du tout encore identifié. Je pense que c'est un éclairage qui n'est pas suffisant et qui peut être assez mal perçu. Et il ne faut pas se satisfaire de la notion de levée de fonds pour dire une entreprise va bien. Là, on a finalement un critère qui est de dire on va essayer de distinguer au-delà de l'innovation. Parce que les médias, et on en fait partie, prennent principalement l'axe start-up sur l'axe innovation. Et donc effectivement, dès qu'il y a un nouveau produit qui sort, on entend un peu parler. On entend notamment sur ces grands salons en France ou à l'étranger. Mais ce n'est pas suffisant. Une entreprise, on ne peut pas juste la mesurer ou l'évaluer à sa capacité à innover ou à sortir de nouvelles idées. Sur ce critère-là, la plupart des grands groupes qu'on connaît aujourd'hui, quelle est la dernière innovation de la plupart de ces grands groupes, on ne saurait pas en citer une seule. Et ça n'empêche pas qu'on a confiance dans ces entreprises, que quand il s'agit de les rejoindre, on se dit « je rejoins un grand groupe ». Et bien justement, on a cette difficulté-là dans le monde de l'idée, de l'innovation, de la transformation, de la construction, on peut dire, d'un nouveau paradigme, c'est que c'est un pari. Donc quand les gens nous rejoignent, quand ils rejoignent une entreprise comme Klaxoon, que ce soit en tant qu'utilisateur ou en tant que membre de l'équipe, il y a un pari qui est fait. Et là, ce que dit le Next40, c'est on met l'éclairage sur des boîtes qui délivrent. Et ça fonctionne. Ils n'ont pas plein de gens, évidemment, ont des idées. Ils font partie de ceux qui ont des idées. Mais il n'y a pas que la notion d'idée. Ces startups dont vous entendez parler un peu partout, elles sont avant tout là pour transformer les choses. Et regardez, on a 40 exemples concrets qui fonctionnent, qui délivrent, qui ont des clients, des utilisateurs, un volume d'affaires, etc. Et qui peuvent demain être des champions internationaux. Et ça, ça fait du bien de le dire, parce qu'on est beaucoup, évidemment, à se battre pour ça. Mais c'est très, très peu souvent dit dans les médias, on le sait. Hein, c'est bien plus l'axe telle levée de fonds, telle innovation, etc. Donc là, il y a d'abord le facteur confiance qui est essentiel, déjà pour ceux qui sont au sein de l'aventure, et puis pour ceux qui hésitent à embarquer. Pour ces utilisateurs qui entendent bien plus parler aujourd'hui d'un marché de l'outil ou de la tech qui est très anglo-saxon, très américain même. Et je peux vous confirmer, on en est la preuve qu'il y a des outils de très grande qualité qui sont produits en France, fabriqués, et ça c'est nouveau. C'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était peut-être un peu moins fréquent d'avoir un tel mix produit, capacité à délivrer sur à la fois l'innovation et la vitesse. C'est nouveau, mais ça fonctionne, c'est fait. On a passé un cap dans plein d'entreprises en France, et vous pouvez faire confiance à ces entreprises pour vous accompagner longtemps. Donc vous pouvez faire le pari d'investir sur des outils comme Klaxoon. On va vous accompagner sur vos nouvelles manières de collaborer. On n'est pas juste là pour vous aider à faire une réunion et puis, en voir. Donc tout ça, ça apporte de la confiance. Et il y en a besoin parce que ces acteurs dont on connaît tous le nom se sont construits sur le bouche-oreille. Cette bouche-oreille, il s'est fait sur la confiance. À un moment donné, on vous dit, tiens, il y a un super truc pour faire des recherches. Va voir, machin. Bah, c'est pareil. On a plus, et c'est comme ça qu'on est fait, et c'est comme ça qu'on a été peut-être éduqués dans ces dernières années. On a été... on a tendance à faire confiance à ce qui vient de loin, au prestige, etc., notamment américain. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas à rougir. On a de très, très, très belles entreprises qui proposent des produits extrêmement innovants. Le Next 40, c'est qu'un aperçu de l'iceberg. C'est la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a plein de boîtes en ce moment qui sont en train de transformer les choses, qui font peur, ou en tout cas qui challengent et qui sont en bonne position pour devenir des champions internationaux. Et c'est aussi ça qu'on veut montrer, c'est allons-y, avançons. Et créons de l'emploi en France. Investissez en général n'ayez pas peur à investir dans le monde des startups ou de ces entreprises innovantes, parce qu'il se passe des choses qui sont de nature à être vraiment positives pour le territoire, et tombez pas dans juste un réflexe d'achat un peu faussé par de la com. Voilà, c'est tout ça qui est derrière.
Ok. Et aujourd'hui, Klaxoon, c'est combien de salariés, combien de chiffre d'affaires aussi?
Alors, on a 230 salariés aujourd'hui sur différents sites. Rennes, principalement, pratiquement 200. Lyon, qui a toujours été la deuxième antenne, le deuxième pied de l'aventure, avec une trentaine de personnes. Paris, avec le store. Et puis Boston, New York. Là, on est sur des équipes d'une dizaine de personnes. Ça fait déjà une équipe très distribuée. Je pense aussi à ceux qui sont en télétravail. Il y en a beaucoup chez Klaxoon qui sont à distance, de Carnac, Marseille, Grenoble... et sur d'autres pays. voilà, ça fait une équipe très éclatée. Et pour la partie activité, on n'a jamais communiqué sur notre chiffre d'affaires. C'est un point justement important dans cette bataille de la com. On joue sur des dimensions qui sont des grands marchés avec un milliard d'actifs en face qui travaillent en équipe tous les jours. Et on souhaite être évalué par la qualité de nos produits et pas juste sur un critère financier qui est plutôt enthousiasmant, mais de mon point de vue, qui n'apporte pas d'éclairage important et qui est plutôt de nature à provoquer des négociations des fois biaisées.
Ouais, c'est sûr. Voilà.
Donc on est aussi sur un marché de l'information, de l'idée, et on préfère garder quelques armes, on l'a toujours fait, quelques coups d'avance par rapport au marché. C'est un point clé dans Klaxoon.
Ok, et les prochaines étapes de Klaxoon, c'est quoi ?
Ben le produit a été lancé il y a 4 ans, c'est rien du tout, c'est très jeune. Hein. Prochaine étape, on est en pleine transformation chez nos clients. On a des clients qui ont déployé aujourd'hui des milliers de licences, donc qui en font Klaxoon un outil incontournable de leur espace de travail. Donc on est en train de devenir un acteur clé de cette nouvelle façon de collaborer et on veut évidemment aller plus loin. Donc on a une très très belle équipe de recherche qui est basée à Rennes, pratiquement une centaine de personnes qui sont en train d'inventer des outils et Klaxoon de demain. Donc j'en dis pas plus, mais on se projette sur le très long terme. Et puis on a évidemment toute la partie croissance classique, que ce soit France ou étranger, donc 150 postes ouverts aujourd'hui à moyen terme, hein, donc c'est-à-dire sous 18 mois. On sait que l'entreprise, on a besoin de ces ressources-là, on a déjà beaucoup de choses à faire. Donc on est plutôt sur un cycle-là d'accélération sur des choses qui sont déjà très établies. C'est pas on va demain avoir une idée, c'est le produit est validé, les utilisateurs nous confirment tous les jours que ça fonctionne, qu'ils comprennent comment utiliser, qu'ils savent où avancer. Alors évidemment, on a encore du boulot, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que le produit soit pleinement utilisé et qu'on n'en reste pas sur des réunions uniquement avec quelques quiz ou quelques questions posées. Ça va beaucoup plus loin que ça, Klaxoon. C'est un outil qui va vous permettre de poser différemment la vision sur un projet. Donc vous allez pouvoir mettre beaucoup, beaucoup de choses, par exemple, sur un brainstorm Klaxoon, qui est une sorte de tableau blanc infini, sur lequel on met beaucoup d'idées comme de couleurs, à droite et à gauche. Donc, on peut mettre aussi beaucoup d'informations médias, on peut mettre des photos, des vidéos. Et là, déjà, ça commence à être autre chose qu'un tableau classique blanc en papier. Voilà. Et puis, au-delà de ça, on va mettre aussi dans un brainstorm, on va pouvoir poser des questions, s'interpeller, on va prendre beaucoup plus vite des décisions. Et là, il faut vraiment sortir du cadre classique de la question posée en réunion. C'est une question que vous allez pouvoir poser à un collectif qui n'est pas forcément au même endroit et sur lequel chacun va pouvoir répondre quand il le souhaite. Et ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite avoir aujourd'hui. Éviter de se faire saturer de notifications sur lesquelles il faut répondre en live, mais plutôt avoir des questions très précises, straight to the point, sur lesquelles il n'y a pas besoin de trop faire d'efforts de forme. Et pour autant, l'information ne se perd pas. Donc on est la bonne solution entre la messagerie sur laquelle on a plutôt tendance à perdre un peu son temps en formulation et puis renvoyer pas toujours aux bonnes personnes l'information. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre arrive dans le projet, bon courage pour retrouver la suite de messages qui vont vous résumer l'étendue du projet que vous avez pu adresser. Là, on passe par un support qui est unique, avec un code d'accès, avec un système où vous pouvez partager l'information, réouvrir l'accès plus tard, où tout le monde peut avoir accès à ça, y compris à distance. On va avoir des effets de synchronisation des écrans. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur cette notion d'efficience en asynchrone, qui fait que derrière, pour l'individu, vous gagnez du temps, vous gagnez en confort. C'est très visuel. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de travailler. Et ça, on est en train de le faire comprendre. Et on a nos premiers utilisateurs qui sont en train de dire « Waouh, ça c'est vraiment une marche en avant. J'ai compris, je suis passé de la réunion classique que j'avais rendue interactive à une nouvelle façon de collaborer avec le brainstorm Klaxoon. »
Ok, donc des étapes très importantes. On va passer à une autre partie du podcast sur les rencontres et le mentoring. Quelles ont été les rencontres qui ont marqué ta carrière d'entrepreneur ?
Alors déjà, c'est au tout départ, pour créer l'entreprise, je pense aux partenaires classiques comptables. On ne parle pas trop de ces métiers-là, mais expert comptable. Il a fallu trouver un bon expert comptable. J'en ai trouvé un à Rennes. Je ne sais pas si je peux citer Éric Lagadec, qui a passé, et Jean-Michel Danjou, dans le même cabinet, qui vont dès le départ avoir une écoute très bienveillante, alors que j'ai qu'un business model et des chiffres sur un Excel. Bon, ils ne sont pas si nombreux, les personnes qui vous prennent au sérieux, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand vous n'avez pas grand-chose. Et il en existe, j'en ai trouvé sur Rennes, que ce soit du côté expert comptable, du côté avocat, du côté conseil, on va trouver ces personnes-là, on va chercher, mais on va les trouver. Et il faut les trouver rapidement. Dans les 6 premiers mois, il faut trouver ça. Et puis ensuite, sur la partie mentoring, je vais croiser dans différents réseaux, le réseau Entreprendre. Je vais être lauréat du réseau Entreprendre en 2012. Ça va me permettre de rencontrer des entrepreneurs ici en local qui me confirment que bah, on n'est pas les seuls à avoir différentes difficultés. Ça, c'est important, je pense, de ne pas être tout seul dans son coin et se dire ouais, « c'est moi qui dysfonctionne complètement » ou et de constater que certaines choses sont parfaitement difficiles pour tout le monde, que d'autres, peut-être, on s'est un peu loupé et que ce n'est pas si compliqué. Donc, il faut toujours passer un peu de temps à discuter, à échanger, parce qu'on peut gagner beaucoup de temps avec ça. Et puis là, on va aussi, pour l'entreprise, marquer... gagner du temps, ça va être notamment par des voyages, notamment international. Ouais. Et un voyage que je pense à un voyage à San Francisco qu'on va faire avec plusieurs entrepreneurs bretons, qui va se faire en 2012, où on va pendant 10 jours aller découvrir la Silicon Valley.
Okay.
Vraiment, il y a quelques noms qui sont, je pense à Jocelyn Denis,
Digitaléo,
Arnaud Giraudon, qui à l'époque pilotait à Comassure. Aujourd'hui, il vient de quitter Fortuneo. Il avait lancé Fortuneo, okay. Il vient de quitter Compte Nickel. Donc des parcours très différents, à la fois à l'échelle nationale, à la fois à l'échelle de l'innovation, sur des marchés très précis. Je pense qu'il est en train de créer du Biflo. Voilà. Donc on a une dizaine, Bertrand Guibaud aussi de Bicom, enfin tout un collectif de personnes qui sont en place aujourd'hui. Et on va aller s'immerger, découvrir que finalement on n'est pas si mauvais. On va aussi prendre en direct la claque du pitch, puisqu'on débarque avec notre façon de parler très française et nos discours de 40 minutes.
Une culture totalement différente.
Voilà, et puis on dit, vous avez 3 minutes pour pitcher votre solution. On va être tous super nuls. Je me rappelle la sortie d'une session où il va falloir tous qu'on pitche un peu nos projets. Et je me rappelle encore d'un VC américain à San Francisco qui répond au mec comme ministre de voyage. Bon, vos gars, là, ça va pas du tout. Hein. Ils sont super nuls. Ils ont rien compris au pitch. Vous pouvez pas y arriver. Et ça, c'était en 2012. Le mot pitch n'était pas encore arrivé.
Okay.
On rentre ici et justement il commence à avoir des conférences sur qu'est-ce que c'est que le pitch, pourquoi est-ce qu'il faut parler en 3 minutes, et ça c'est un truc qui va nous apporter beaucoup en clarification, en choix aussi. Vous êtes obligé de choisir quand vous n'avez plus que 3 minutes, comment, qu'est-ce qu'on fait, de quoi on parle en premier. Donc ça, c'est tout ça, c'est des rencontres, et c'est vraiment ce qui va mener Klaxoon là où on est aujourd'hui, des échanges, à la fois la bonne mesure, c'est-à-dire que je ne vais pas non plus trop m'éparpiller, je fais toujours attention à ça, à passer plus de temps auprès des équipes qu'en dehors de l'entreprise. C'est vraiment le conseil, si j'ai un conseil à donner, c'est passer beaucoup de temps avec vos équipes, parce que c'est surtout là que se trouve la solution. Évidemment, prenez un feedback extérieur, mais c'est en interne que ça joue.
Ouais, ok. Et justement, en parlant de rencontres, dernière question de cet épisode, puisque le déjeuner ne va pas tarder. As-tu des entrepreneurs à me conseiller pour des prochains épisodes?
Arnaud Giraudon, justement, dont je vous ai parlé rapidement. Arnaud Giraudon, il a un parcours très riche. Il a toujours été extrêmement bienveillant pour la partie création, entreprise, start-up, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Et puis Antoine Crire, du Biflo,
okay,
qui a aussi une vision disruptive de la manière dont on peut mener un projet et qui, je trouve, a su créer de la valeur sur des volumes en se battant sur chaque détail. Et ça aussi, c'est important d'avoir le sens du détail quand on est entrepreneur.
Ok, merci pour ces deux noms. Merci pour cet échange, Mathieu. Et on se retrouve prochainement sur Serial Entrepreneur.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Serial Entrepreneur sur votre plateforme favorite de podcast pour recevoir les prochains épisodes directement sur votre smartphone. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez surtout pas à laisser une note. Suivez le média sur serial-entrepreneur.fr et sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.